une prédication en rapport, en fait, bon, on est pratiquement le dernier culte des vacances, il y a encore pas mal d'absents qui sont à droite, à gauche. Et je voudrais partager donc une prédication en rapport avec mon année sabbatique. Alors, j'aime pas appeler ça année sabbatique, mais bon, c'est le mot est pratique, puis j'en trouve pas d'autres, mais parce que c'est pas vraiment une année sabbatique, je vais continuer à faire des messages de temps en temps, des études bibliques, etc. Mais c'est vrai que vous le savez, je l'ai déjà annoncé, donc je vais laisser pour un an ma charge d'ancien, j'allais dire, au sens d'activité, d'organisation, de faire, etc. Je garderai juste mes dons comme un simple membre, j'allais dire. J'ai le don pour faire des choses, donc je ferai ces choses, et puis voilà, quoi, mais comme chacun d'entre nous. Et donc je voulais partager en rapport avec ça ce matin. Est-ce qu'il est possible d'avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Je crois qu'il n'y en a pas là aujourd'hui. Non. Merci. On va lire un texte dans le livre des juges. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des juges. Qui a déjà lu le livre des juges? Qui a déjà lu le livre des juges? Levez bien haut, levez bien haut, levez bien haut. La moitié. Super. Ça va être l'occasion cette semaine pour vous de lire le livre des juges si vous ne l'avez pas lu. Et si vous l'avez déjà lu, de le relire. Parce que c'est vraiment un livre très très intéressant. Alors, vous l'avez trouvé? Oui. Bon, mais gardez-le de côté, on va le lire dans un instant. Mais avant, je voudrais faire quelques rappels avant de lire ce texte qu'on va lire tout à l'heure. Je voulais rappeler un petit peu le contexte et puis l'histoire, parce que c'est important de remettre chaque wagon, j'allais dire, à sa place, pour que dans nos têtes, dans nos cœurs, les choses soient saisies, soit enracinées, soit solidement en place. Je voulais rappeler que Dieu, le Dieu éternel, le Dieu créateur, un jour a décidé de se révéler à un polythéiste, quelqu'un qui ne le connaissait pas, qui adorait, comme dans sa culture, toutes sortes de dieux. Il s'appelait Abraham, et il a fait avec lui une alliance, avec Abraham, je vais aller très vite, hein, une alliance qui est une alliance en fait irrévocable. Pourquoi est-elle irrévocable, cette alliance? Parce qu'elle est garantie par Dieu lui-même. Elle n'est pas garantie par la fidélité de l'homme, elle est garantie par la fidélité de Dieu lui-même. Abraham a eu un fils qui a été héritier de cette alliance, c'est Isaac, qui était le fils de la promesse. Isaac n'a pas été que héritier, il a lui-même reçu confirmation de l'alliance pour lui. C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté à Isaac, pas seulement pour lui dire « Oui, tu es l'héritier par naissance de la promesse, mais je fais alliance aussi avec toi. » Et puis Isaac a eu pour fils héritier de l'alliance Jacob. Et de la même façon, Dieu a directement confirmé son alliance à Jacob. Et c'est ce Jacob qui, après une rencontre singulière avec Dieu, vous vous souvenez, cette lutte avec un ange, va changer de nom. Ce Jacob va s'appeler dorénavant Israël. Ce Jacob a eu 12 fils. Et les 12 fils ont été les héritiers de la promesse. Ça n'a pas été la lignée d'un seul homme, là, mais là, en Jacob, en Israël, c'est devenu 12 fils qui ont hérité de cette alliance avec Dieu. Et la descendance de ces 12 fils vont donner 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Un jour, les 12 fils, dans les 12 fils de Jacob, il y en avait un qui était un peu un rêveur, on l'appelait le rêveur. Vous savez comment il s'appelle, vous vous souvenez, Joseph. Il avait des rêves, il avait des visions. En fait, le Saint-Esprit lui parlait. Et puis, il ne le gérait pas avec sagesse et il va se mettre à dos tous ses frères. Ses 11 frères en ont ras-le-bol de ce petit jeune-là, qui se croit meilleur que les autres, plus spirituel, qui a des visions extraordinaires, qui prophétise, qui vont se prosterner devant lui, etc. Enfin bon. Et donc, les 11 fils de Jacob vont se liguer tous ensemble et vont vendre Joseph, donc vont vendre leur frère. Ah, il y a tout un stratagème, je ne vous le rappelle pas, hein, mais Joseph va se retrouver en fait exilé en Égypte, sans que sa famille sache où il est, parce qu'après on le prend pour mort, on pense qu'il est décédé. Et Joseph se retrouve en Égypte, esclave, prisonnier ensuite, et par une série de miracles, Joseph va être complètement transformé en fait et va devenir... intendant de toute l'Égypte, c'est-à-dire premier ministre, on peut dire, de l'Égypte. Sa famille pensait qu'il était mort, comme je disais. Et puis, dans cette même période, en Canaan, donc dans la terre d'Israël, il y a une famine qui survient. Et la famille de Jacob est en grande souffrance. Et bon, comme c'est le cas quand il y a une famine, on cherche où aller pour chercher du secours. Et ils apprennent qu'en Égypte, il n'y a pas la famine. Il y a un premier ministre, qu'on ne connaît pas, un égyptien, qui a tout organisé avec sagesse pour pouvoir survivre pendant une famine. Et donc, il y a tout ce qu'il faut en Égypte. Donc, les enfants d'Israël, donc les enfants de Jacob, vont en Égypte et ils s'installent en Égypte. Vous vous souvenez de cette rencontre entre Joseph et ses frères? Ils se reconnaissent, ils s'embrassent, ils se pardonnent, ils pleurent ensemble. Et toute la famille est réunie et c'est magnifique. Et puis la famille prospère en Égypte. Ils multiplient et ça devient vraiment là, c'est en Égypte que le peuple d'une famille, d'un petit clan devient vraiment un grand peuple. Tellement ils prospèrent, ils se multiplient et tout va bien pour eux. Et puis, Pharaon change, le roi change. Et puis, lui n'a pas connu Joseph, ce Pharaon-là, et il voit d'un mauvais œil ces espèces de gens qui viennent d'ailleurs, ces immigrés, qui sont là dans le peuple, dans le pays, et qui prospèrent. Et il se dit, oh là là, là, on a de la concurrence, c'est eux qui vont bientôt diriger l'Égypte, alors que ce n'est pas des Égyptiens, etc. Et donc, il commence... rapidement, je le dis, hein, à les amener en servitude, en esclavage, etc. Et donc le peuple va se retrouver avec 400 ans d'oppression, d'esclavage pour tous ses descendants de Jacob. Et on peut dire, mais où est la promesse de Dieu? C'est ça l'alliance, pendant 400 ans l'esclavage? Mais où sont les promesses de Dieu? Mais Dieu est fidèle. Dieu va alors susciter un libérateur, Moïse, qui va sortir le peuple du pays d'Égypte avec de grands miracles, puis va ensuite commencer un périple pour retourner au pays d'Abraham, pays de la promesse, pays de Canaan. Cet événement de la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la sortie d'Égypte, c'est vraiment l'événement fondateur qui marque la naissance officielle du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël donc sort d'Égypte, traverse la mer Rouge, et les gens ont calculé qu'avec un peuple de quelques millions comme ils étaient, normalement en 40 jours ils devaient pouvoir atteindre le pays de Canaan, le pays de la promesse. Et vous vous souvenez que ce n'est pas tout à fait 40 jours qu'ils vont mettre pour y arriver. Ça va être 40 ans. Pendant 40 ans, ils vont aller, venir, tourner en rond, etc. Non pas tourner en rond parce qu'ils sont perdus, mais parce que Dieu les fait tourner en rond, entre guillemets, sans que ce soit forcément négatif, ce mot-là, à ce moment-là, dans le désert, avant de pouvoir entrer dans la terre de Canaan. Et puis, arrive le moment où vraiment ils approchent. Ils approchent, ils sont tout près, j'allais dire, la frontière. Il n'y avait pas de frontière, mais... et Moïse dit, voilà, on approche. Alors maintenant, ça fait 40 ans qu'on tourne. La promesse de Dieu, c'était il y a un moment. Maintenant, on va envoyer des espions dans le pays d'Égypte. Vous vous souvenez de ça? Pas dans le pays d'Égypte, dans le pays de Canaan. Donc ils envoient 12 espions. Et puis de ces 12 espions, il y en a 10 qui vont revenir, qui ont visité tout le pays de Canaan, ce pays promis qui doit être extraordinaire. Et les 10, sur les 12, il y en a 10 qui reviennent, mais alors qu'ils sont négatifs de chez négatifs. Oui, c'est sûr, c'est un beau pays, mais il y a des géants. Il faut au moins 1m50, ces soldats là-bas. Il y a des villes fortifiées, c'est des villes imprenables. Pour résumer, en fait, ce que ces 10 espions disent au peuple, pour lui remonter le moral, c'est qu'en fait, eux avaient l'impression d'être comme des sauterelles à côté de ces peuples-là qui sont là dans le pays de Canaan. Et donc, tout le peuple est complètement démoralisé. Mais il y a 2 autres espions qui disent « Stop, arrêtez. On a visité le même pays, on était ensemble, on a vu les mêmes villes fortifiées, on a vu les mêmes géants, on a vu tout ça, mais c'est un pays découlant de lait et de miel. Et regardez tous ces fruits qu'on rapporte. Pour porter une grappe de raisin, il faut 2 hommes. C'est un pays incroyable, il n'y en a aucun autre. Et effectivement, il y a les géants, il y a les villes fortifiées, mais il y a aussi la promesse de Dieu. Vous savez le nom de ces 2 espions, Josué et Caleb. Et Josué et Caleb vont changer le moral du peuple et le peuple va s'engager dans la conquête. Et donc c'est Josué et Caleb qui vont diriger la conquête du pays de Canaan. Et toute la génération qui entre avec eux va gagner du terrain. Ils vont pénétrer. On se souvient de Jéricho, comment Jéricho, la grande ville, est vaincue, les murs s'effondrent, etc. Puis il y a la ville d'Aï où ça se passe moins bien, mais finalement, de ville en ville, petit à petit, on y arrive et ça avance bien. Ce peuple, pays promis à Abraham, eh bien, il est dur, mais on le conquiert, on avance. Mais en fait, la Bible nous dit que le peuple d'Israël ne va pas réussir, cette génération-là ne va pas réussir à chasser complètement toutes les nations païennes. Tous les peuples ennemis devant eux. Ils ne vont pas réussir. Et c'est là où on va arriver à notre lecture. Voilà. Donc vous avez bien le tableau maintenant. On va zoomer un petit peu. Je vous invite à ouvrir le livre des juges donc dans le chapitre 3. On peut même lire le dernier verset du chapitre 2. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Et il ne se hâta pas de les chasser. Intéressant quand même. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient aux commandements qu'ils avaient prescrits à leur père, par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs fils à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. Les Baals sont des faux dieux, hein. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishéataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre lui. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kenaz, mourut. On s'arrête là. Donc je disais, c'est intéressant parce que le peuple, avec la promesse, entre dans le territoire de Canaan. Il conquiert des villes, mais il ne conquiert pas tout. Il chasse des habitants ou il les voue à interdit, selon les cas, selon la direction de Dieu. Mais la victoire n'est pas complète. Il y a une cohabitation qui s'installe. Et le verset 23 du chapitre 2 qu'on a lu nous le dit, c'est l'Éternel qui laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Il ne se pressa pas, il ne se hâta pas de les chasser. Et donc, il y a cette cohabitation. On vit sur la même terre, la terre est promise à Israël, mais il y a encore d'autres nations qui sont là au milieu. Et des nations avec une autre culture, avec d'autres dieux, avec d'autres habitudes. Et il nous est dit que c'est à dessein, finalement, que Dieu a voulu que ça se passe comme ça. En fait, la génération de Josué et Caleb a laissé une œuvre inachevée. Alors, c'est certes, quand on lit bien les textes, vous relirez tranquillement, c'est certes à cause d'un certain nombre d'erreurs, de désobéissances. On le voit là. Israël était un peuple à part et ils commencent à se marier, à donner leur fils, à donner leur fille, etc., à faire des mariages mixtes, à tout changer, à tout mélanger, et même à se laisser influencer par les religions païennes, par les coutumes, la mentalité des autres, etc. Donc il y a vraiment une infiltration, entre guillemets, on dirait aujourd'hui, du monde païen, dans le monde, dans le peuple de Dieu. Donc il y a des erreurs, et ces erreurs ont des conséquences négatives, qui font que, effectivement, le peuple n'a plus l'énergie, la force, la volonté, ou que Dieu, tout simplement, ne le bénit pas dans ce qu'il fait là. Et donc, il y a ces blocages. Certes, il y a l'infidélité du peuple, mais là, le texte ne nous parle pas de cette infidélité. Enfin, il nous l'a décrit, mais il ne nous dit pas que c'est à cause de ça que l'Éternel n'a pas donné la victoire complètement. Il dit que c'est vraiment à dessein qu'ils n'ont pas rempli complètement leur mission. Il nous est dit, on peut le lire, donc déjà le verset 1, « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. » Au verset 2, « Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. » Donc il y avait deux buts, en fait, à cette situation. Le premier, c'était d'éprouver les générations d'après. La génération de Josué et Caleb, à part Josué et Caleb, n'avait pas été fidèle. Et on lit comment ils ont été éliminés. Une génération est venue, ils ont connu. À la suite de Josué et Caleb, ils ont conquis, ils ont été fidèles, ils ont fonctionné avec Dieu, etc. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout du chemin. Et il y avait d'autres générations qui se levaient derrière. Et Dieu voulait éprouver ces générations pour voir s'ils allaient être fidèles, eux aussi. Et la deuxième raison, c'était pour leur apprendre la guerre. Dieu se disait, bon, que la génération de Josué et Caleb ait appris la guerre et ait conquis le pays, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut que la génération d'après, et puis il faut que la génération d'après apprenne à faire la guerre. C'est étonnant quand même, mais c'est ce que le texte nous dit. C'est ce que le texte nous dit. Il y avait un apprentissage. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Donc il y avait deux approches, tester. Est-ce que ça vous choque quand on parle que Dieu nous teste parfois? Dieu vérifie, Dieu teste, non pas, c'est pas des examens, hein. On ne passe pas le bac spirituel et la licence spirituelle et... Mais régulièrement, Et c'est vrai au début de notre vie chrétienne, mais c'est vrai aussi dans le courant de notre vie chrétienne. Il y a des moments où Dieu permet des choses, ou met des situations, simplement pour voir comment on réagit. Simplement pour voir qu'est-ce qu'on va choisir. Simplement pour voir si on va faire le bon pas, plutôt droit, ou le mauvais pas, côté gauche. Dieu teste, Dieu vérifie, Dieu éprouve. Et c'est vrai. Regardez, Jésus a fait la même chose. Parce que ça, vous allez me dire, ah ouais, non, c'est l'Ancien Testament. Non, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus dit un jour à toute la foule qui est là avec ses disciples, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne peut pas être mon disciple, ne peut pas me suivre. Oula! Attends, Jésus, il faut manger ta chair? Quand est-ce qu'on va faire cuire le muscle? Attends, il faut boire ton sang? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et qu'est-ce que nous dit le texte de l'évangile? Beaucoup l'ont quitté à ce moment-là, en disant, il déraisonne, etc. Et Jésus va se tourner vers ses disciples et il dit, mais alors et vous? Vous ne les suivez pas? Vous ne partez pas? Comment ça s'appelle si ce n'est pas un test, ça? Si ce n'est pas une épreuve? Si ce n'est pas aller au fond du cœur? Et des fois, le Seigneur nous amène au fond du fond de chez nous. Et pour le faire, il le fait par des tests, par des épreuves, par toutes sortes de choses, par des choix, par des croisées de chemin où il faut qu'on la choisisse et qu'on se remette devant Dieu, qu'on revienne au fond de nous-mêmes et qu'on dise, bon, Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez de ce texte de l'Épître aux Hébreux, quand même, qui nous parle de Jésus ? Jésus, Dieu fait homme. Jésus, le Messie, il nous est dit, Hébreux 5:8, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est dans votre Nouveau Testament, ça, ou pas ? C'est dans le mien, en tout cas. C'est extraordinaire. Et forcément, ça fait écho à des choses dans vos vies. En tout cas, ça fait écho à des miennes, à des choses dans ma vie. Des moments où j'ai eu des choix à faire, des moments où j'ai eu des situations, j'ai dû apprendre. Alors apprendre l'obéissance, apprendre la fidélité, apprendre où Dieu m'amène au fond de moi-même pour voir vraiment ce que j'ai dans le cœur. C'est un apprentissage. Le but n'est pas d'échouer. Dieu ne fait pas un croche-pied pour qu'on tombe. Comprenez bien, ce n'est pas ça du tout. Dieu dit, allez, tu vas sauter au-dessus là ? Vas-y. Alors il te montre comment sauter au-dessus, ou alors il te montre comment contourner, ou il te montre. Mais Dieu teste les générations. Et de génération en génération, il y a ces tests. Le mot là dans ma Bible, c'est éprouve, éprouver. Dieu cherche à voir ma fidélité. Dieu ne nous donne pas toujours des choses faciles. Moi, je ne crois pas au Dieu guimauve, vous savez. C'est doux, c'est sucré, c'est tout. Alors oui, il est comme ça. Mais Dieu, c'est aussi salé. Dieu, c'est aussi parfois épicé. C'est vrai ou pas? Ça correspond à des réalités dans nos vies ou pas? Eh oui. Et c'est ce que Dieu là fait avec les générations d'Israël. C'est ce que Dieu fait avec nos générations. Nos enfants, nos petits-enfants, et de génération en génération depuis bien longtemps avant nous. Dieu veut tester notre fidélité, notre authenticité, nous amener au pied de la croix. Combien de fois on a besoin de revenir au pied de la croix, de revenir à lui, pour dire Seigneur, tout pour toi. Ça, c'est une première étape. La deuxième, qui aussi peut être surprenante, c'est apprendre la guerre, enseigner la guerre. Il ne fallait pas que tous les ennemis soient éliminés. Excusez-moi, on a respiré beaucoup de poussière hier dans les travaux. Et donc ma voix est un peu comme celle de Pierre. J'ai vu que Pierre dans le champ ce matin, c'était un peu chaud. On a respiré tellement de poussière qu'on est... C'est pour ça que je bois aussi pas mal, j'ai la bouche sèche. enseigner la guerre. Oui, il ne fallait pas que toutes les nations soient éliminées complètement, parce que sinon, la génération d'après, ça aurait été une génération, comment on peut dire? J'ai du mal à trouver un mot. Une génération où tout est dû, où tout est donné, où tout est cadeau. Vous savez, cette génération où elle n'a qu'à ouvrir le bec et puis elle reçoit. Ça vous parle un peu sur des choses aussi de notre temps, hein, des choses où on est tellement dans un monde de bénédiction, d'abondance, de voilà, ben on ne sait plus se battre, on ne sait plus. Et Dieu voulait que cette génération d'après et les générations d'après, parce qu'il ne nous est pas dit une génération, il est dit les générations apprennent la guerre. Alors vous allez me dire, ouais, c'est l'Ancien Testament. Je fais exprès d'employer ces mots que j'aime pas. Hein. L'évangile de Matthieu, c'est dans l'Ancien Testament? Non, c'est dans le Nouveau. Jésus va dire, Matthieu 11, 12, qu'est-ce qui s'empare du royaume de Dieu? Qu'est-ce qui s'empare du royaume de Dieu? Ce sont les violents. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors, bien sûr, pas la violence physique. Jésus évoquait pas là la guerre, etc. Peut-être que l'Église, il y a bien longtemps, ou ce qui s'appelait l'Église, a cru ça et a pris les armes. Et ça, c'est pas du tout ce que Dieu voulait. Mais effectivement, les générations, nos enfants, nos petits-enfants, doivent apprendre la guerre. Pas la violence physique, mais l'audace, le courage, la volonté, la persévérance. C'est pas un proverbe biblique, mais ça y ressemble. On a rien sans rien. Et ça aussi, c'est le royaume de Dieu. Ça aussi, c'est le royaume de Dieu. Dieu voulait tester une génération, voir ce qu'elle a au fond des tripes. Non pas pour la tester, pour lui faire du mal ou la faire tomber, mais pour la purifier. Vous savez, quand on a un diamant, on le polit pour qu'il brille. Et Dieu voulait une génération qui apprenne la guerre, qui puisse se retrousser les manches et qui dise, moi j'irai, je fais partie de l'armée de l'Éternel et je vais y aller. Je vais aller gagner des âmes, je vais aller m'engager. Je vais servir Dieu, je vais être une lumière, on a chanté ça tout à l'heure, une lumière pour éclairer les nations, je vais m'engager dans ces choses. Alors malheureusement, notre texte, il nous raconte la réalité. Vous savez, la Bible, elle ne nous raconte pas des rêves, des mythes ou des jolies histoires pour endormir les enfants. Elle est très proche de la réalité. Et en fait, on voit que très vite, le peuple a eu tendance à se laisser aller. En ce qui concerne la fidélité, on a vu tous les compromis qu'ils ont faits avec les autres nations et leurs dieux. Et en ce qui concerne la guerre, ben, ils ne l'ont plus fait du tout. Le peuple a rapidement tendance à se laisser aller, il emporte les conséquences. Et qu'est-ce qui se passe? Alors le peuple est de nouveau non plus en Égypte, mais sur sa propre terre, réduit quelque part en esclavage, en servitude. C'est la fin du verset 8. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans au roi de Mésopotamie. Pendant 8 ans, de nouveau, ils sont sous la coupe de gens qui leur font faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, etc. Il y a une oppression. Et ça arrive dans nos vies aussi. J'allais dire, ça arrive dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quand il n'y a plus rien qui va, on retourne vers le Seigneur. Et Israël, là, retourne vers le Seigneur. Ils reviennent, ils se repentent, ils reviennent au Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quelle est la façon de Dieu d'intervenir? Il va susciter des leaders selon son cœur. En Égypte, il y avait l'esclavage, il a suscité Moïse et Aaron. Et bien là, de nouveau, tout le livre des juges, c'est cette histoire. Et je vous encourage vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à le lire, ce livre des juges. Une histoire d'un éternel recommencement, j'allais dire, sur quelques générations, du peuple qui devient, qui se laisse aller, qui devient fidèle, qui... Et puis Dieu suscite des leaders, suscite des chefs, suscite des responsables, suscite des gens, on va voir, qui sont loin, pour changer les choses. Et le livre des juges nous montre que tant que le leader ou les leaders sont là, le peuple est béni. Là, on le voit, il nous est dit que le peuple a été béni tant que Othniel était là, et le pays fut en repos, verset 11, pendant 40 ans. 40 ans de repos, 8 ans d'esclavage, 40 ans de repos, parce que Dieu avait suscité Othniel. Un des rôles principaux des responsables dans le peuple de Dieu, c'est en fait de passer par des portes fermées. C'est de frayer des chemins là où il n'y a pas de chemin. Et pour faire ça, ça requiert de la foi, ça requiert de l'obéissance, ça requiert de l'engagement, ça requiert de l'audace, surtout de la patience et de la persévérance. Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a trois choses qui sont dites sur Othniel, et puis une quatrième. Trois choses qui sont dites sur Othniel. L'Esprit de l'Éternel est sur lui. Dieu suscite des leaders qui sont loin, qui ont l'Esprit de Dieu sur eux, qui ont une onction pour quelque chose. Il nous est dit de Othniel qu'il a été juge. Alors juge, sortons de nos têtes le sens du mot juge actuel. C'est pas le juge qui siège au tribunal, hein, c'est pas ça. Les juges, c'était ceux comme Moïse qui jugeaient le peuple, qui dirigeaient le peuple, qui jugeaient ce qui était bien, ce qui était mal, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Donc c'était les leaders qui jugeaient, qui discernaient, j'allais dire, qui voyaient les choses et qui faisaient avancer le peuple. Et puis la troisième chose qui nous est dit de Othniel, c'est qu'il est parti faire la guerre. C'est exactement ce qui était enseigné avant. L'Esprit de l'Éternel sur lui, il est juge, il fait la guerre. La quatrième, que je rajoute mais que je mets à part, Othniel n'était pas n'importe quel leader. Il nous est dit qu'il était le fils de Kenaz, ça ne nous dit pas grand-chose, mais qu'il était le neveu de Caleb. Et ça, je trouve c'est intéressant. Dieu suscite qui il veut, comme il veut, quand il veut, mais souvent, il ne choisit pas n'importe comment quand même. On peut remarquer des choses. Othniel, fils de Kenaz, neveu de Caleb. Othniel, il avait son tonton. Et son tonton, Caleb, c'était, je cherche mes mots parce que je ne veux pas dire des choses légères, mais c'était quelqu'un qui en voulait pour Dieu et qui avait donné pour Dieu et qui s'était investi pour Dieu et qui avait montré l'exemple, j'allais dire. Et ça, c'est extraordinaire. C'est Josué, un jour, le copain de Caleb, qui avait dit, Josué, quand il a donné le choix au peuple, il a dit, vous faites ce que vous voulez, en tout cas, moi, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Alors la maison, ce n'est pas la maison avec le toit. Hein. La maison, c'est la famille, c'est le clan. Josué avait dit, moi et Caleb étaient avec lui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et comme par hasard, un des juges que Dieu suscite en Israël, c'est le petit-neveu. Vous savez que dans l'histoire, dans la Bible, que ce soit dans la première alliance ou dans l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, c'est souvent une histoire de famille. C'est souvent une histoire de famille. Alors il y a des gens que Dieu va chercher comme ça, j'allais dire, un peu comme moi, que Dieu a été cherché ou comme certains d'entre vous, alors que vous n'êtes pas d'un arrière-plan évangélique, les gens dans votre famille ou dans ma famille n'étaient pas engagés dans la foi, etc. Donc Dieu va chercher souvent des gens comme ça, complètement, j'allais dire, sans racine apparente, mais souvent il fait autrement. Souvent, il s'occupe des familles. Souvent, il suscite des gens dans les familles et il bénit les familles. Et je disais, c'est le cas dans l'ancienne alliance, c'est aussi le cas dans la nouvelle alliance. Qui était le principal responsable de l'église de Jérusalem dans les Actes des Apôtres au tout début de l'église? Vous vous souvenez? C'était Jacques. C'était pas un apôtre. C'était pas un apôtre qui dirigeait l'église de Jérusalem. Les apôtres avaient d'autres choses à faire. Mais l'église de Jérusalem, excusez du peu, c'est quand même Jérusalem, c'est quand même la première église. Hein, c'est Jacques qui la dirige. Et c'est quel Jacques? Parce qu'il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament. C'est le frère de Jésus. C'est ce frère qui était avec Marie un jour, qui sont venus chercher Jésus pour essayer de le faire soigner parce que ça allait plus du tout. Vous vous souvenez? Ta mère et tes frères sont là. Et Jésus va dire, oui, ma mère, mes frères, c'est ceux qui obéissent. Pour le moment, eux... Enfin, je caricature un peu. Ce frère-là, qui était le plus grand, né après Jésus, donc, hein, né de Marie et Joseph, c'est ce Jacques, le petit frère de Jésus, qui dirigeait l'église. Est-ce que vous savez qui était Jean-Baptiste? C'était le cousin de Jésus. Quand je vous dis que c'est une histoire de famille, et ça m'encourage beaucoup. Moi qui suis d'une famille ou non, mais j'ai rejoint une famille par Cathy où il y a la bénédiction. Il y avait des gens qui ont servi Dieu, qui ont tout abandonné pour le Seigneur, qui ont marché avec Dieu. Quel plaisir de voir beaucoup de nos enfants faire ça aussi. Mais dans nos familles, c'est la même chose. Dieu suscite des générations et une génération après l'autre. Et souvent, il y a ces histoires de famille. Et ça, c'est super encourageant. Pour ceux qui, par exemple, sont engagés dans le ministère des enfants. Ils vont ranger tout le matériel cet après-midi. C'est vraiment super de vouloir s'engager pour les enfants dans l'église. En tant que parents, bien sûr, on est les premiers, et en tant que grands-parents, à s'investir pour les enfants. Oui, le royaume de Dieu, c'est aussi une histoire de famille. Et il faut y croire. Il faut y croire. Et quand la promesse ne s'accomplit pas de suite, toujours, la Bible nous dit simplement, attends-la. Attends-la, la promesse. Parce que Dieu a promis. Et Dieu est fidèle. Amen. Le royaume de Dieu, c'est une histoire de transmission de génération en génération. Alors, je partage ça un peu en rapport avec l'année que je prends de recul, parce que j'en ai besoin. Mais quand je lisais le livre des juges, un jour je suis tombé sur ce texte et ça m'a fait penser à ça. Et j'ai pensé aux différents leaders de l'Église, aux principaux responsables, mais aussi à tous les leaders. Et je me suis dit, voilà, moi, bon, ma vie n'est pas finie, mon ministère non plus, hein, loin de là, enfin je ne crois pas. Mais je me disais, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas atteintes, qu'on n'a pas encore obtenues. On a fait énormément, c'est extraordinaire. J'ai vécu des choses jusqu'à ce jour extraordinaires, et vous aussi. Mais rien ne remplacera à ce que la génération d'après fasse les choses. La génération d'après, Dieu la teste. Et cette année, pour un certain nombre de leaders dans l'Église, ça va être un test. Dieu, à cette génération, aux générations, apprend la guerre, apprend à se battre. Et j'invite les leaders, tous les leaders dans l'Église, à être des combattants. Parce que c'est le plan de Dieu. Parce qu'on a besoin d'apprendre. Amen. Et je crois que c'est important. Alors, on ne va pas prier aujourd'hui pour les quatre responsables, Pierre, Farid, David et Thomas, parce que David n'est pas là. On priera à un autre moment, peut-être au culte de rentrée où on verra. Mais David n'est pas là aujourd'hui parce qu'en fait, sa filleule se fait baptiser. Donc ça, c'est une grande joie. À Montélimar, ils ont des baptêmes ce matin. Plusieurs baptêmes, dont la filleule de Dadou, et donc ils sont là-bas. Mais je crois que ce serait intéressant qu'on puisse, pas intéressant, que c'est nécessaire, que l'Église ensemble prie pour ses leaders. Et je pense que quand on priera pour trois choses. On priera pour que l'Esprit de l'Éternel repose sur eux, comme il reposait sur Othniel dans notre texte. On priera pour qu'ils soient des juges, c'est-à-dire qu'ils puissent gouverner. Et on priera pour qu'ils partent en guerre, pour que Dieu fasse d'eux des guerriers. Et quand je dis eux, oui, c'est eux parce que c'est eux, mais c'est le peuple. Parce que le peuple, c'est les responsables, c'est le peuple, en fait. Tout est lié. Voilà, donc je voulais vous partager ça ce matin, parce que ça me semblait important de remettre un petit peu les choses, puis parce que vraiment, quand je l'ai lu, ce texte, il m'a parlé. Je me suis dit, ça, c'est tellement beau, c'est exactement ce qu'on vit le peuple de Dieu. Et moi, je ne fais pas partie des personnes, si ça existe, oui, je crois que ça existe, qui, vous savez, tiennent à leur place, à leur poste, à leur jusqu'à la mort. Seigneur, je veux mourir en prêchant. Non, il y a la génération d'après qui doit apprendre. Il y a la génération d'après qui doit se former. Il y a la génération d'après qui s'est formée d'ailleurs pendant 2 ans à l'académie, mais qui doit entrer sur le terrain. Encore plus. Et si Joël y reste trop avec eux devant, il est comme un grand chêne, l'arbre, hein, qui empêche les petits chênes en dessous de grandir. Et donc Joël, il se met aussi de côté pour ça, pour que les autres puissent prendre pleinement leur place et s'épanouir au soleil. Et ça ne se fera que si l'Église ensemble est unie avec eux, derrière eux. Et donc c'est aussi un encouragement pour l'Église. Amen. On va partager et finir par la Sainte Cène. Peut-être, Pierre, tu aurais un chant. Ce serait bien qu'on puisse chanter pendant ce temps de scène.